Alors, donc je vais poursuivre donc ma prédication dans l'épître de Jacques, hein, c'est un peu ce que j'avais annoncé. Et donc d'emblée, je vous pose une question. Auriez-vous une idée du nombre de mots que nous prononçons chaque jour? Ça dépend des personnes. Effectivement, donc ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais il y a quand même des publications scientifiques qui sont faites. Et vous voyez, donc c'est un domaine qui intéresse. Donc, les psychologues, par exemple, qui font des enquêtes. Et voici ce que j'ai trouvé comme résultat assez récent, en 2025. Nous parlons, ou du moins nous, prononçons chaque jour entre 18 000 et 22 000 mots. La tranche d'âge, c'est entre 25 et 65 ans. C'est les résultats que j'ai trouvés dans la revue américaine de la personnalité et de la psychologie sociale. Alors donc, vous voyez, évidemment, la différence, elle est importante. Donc, il y a quoi, à peu près, de 4 000 mots quand même de différence, hein? 18 000, 22 000. Bien entendu, hein. Comme Nadine l'a rappelé, cela dépend de notre personnalité, des circonstances et de bien d'autres facteurs. Exemple, il y a des professionnels du commerce ici? Non? Ça, on le sait quand même, que les professionnels du commerce voient du monde tous les jours. D'autres, au contraire, en voient peu. Ça dépend du travail que l'on fait. C'est un des premiers facteurs. Les humeurs, quand on est triste, nous nous taisons. Mais joyeux, nous parlons davantage. Certains sont de nature très loquace et d'autres plutôt réservés. De la personnalité de chacun. Étant donné le nombre de paroles dites en une journée, à plus forte raison d'une vie, c'est, il me semble, l'un des domaines où le péché est le plus visible. En Romains 3, donc des versets 13 à 14, on peut lire ceci. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Aussi, c'est l'un des domaines où le chrétien devrait se montrer le plus différent de l'incroyant. En Jacques, chapitre 1, verset 26, on peut lire ceci. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de ce monde est vaine. Oui, de cet homme est vaine, non? Il y a une erreur dans le verset? Ah, d'accord. Ah, pardon, non, de cet homme est vaine. Excusez-moi, je parlais trop vite. Heureusement que c'est écrit. Justement, l'épître de Jacques est celle avec le passage le plus important au sujet de la langue dans tout le Nouveau Testament. Donc, nous sommes bien dans l'épître de Jacques, et c'est dans cet épître que nous allons examiner ce qu'il en est de la parole. Alors, vous l'aurez compris, on va lire donc Jacques 3, les versets 1 à 12. Jacques 3, versets 1 à 12. Sinon, vous avez la projection également. Je commence, si vous avez trouvé, Jacques 3, 1 à 12. Mes frères, qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous l'aurez compris, le titre de mon message s'intitule « Le croyant, pourquoi garder sa langue en bride ?» Voilà l'intitulé du message ce matin. Comme on l'a lu, Jacques commence par exposer plusieurs vérités spirituelles au sujet de la parole. Ensuite, il en donne les raisons. C'est ce que nous allons examiner ensemble, pas à pas. Première vérité spirituelle, Dieu nous enseigne par Jacques que nous aurons à rendre compte à lui de nos paroles. Première vérité spirituelle, nous rendrons compte à Dieu des mots que nous prononçons. Le premier verset, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Les enseignants en particulier, Jacques commence par eux, seront jugés plus durement en cas d'erreur, car celle-ci trompe l'assemblée. Et de ce point de vue, le Seigneur sera intraitable. Les enseignants, prêchez, enseignez la sainte doctrine, sans faille. Mais, pas que les enseignants, tout le monde devra rendre compte de ses paroles, d'ailleurs, comme de ses actes. Jugez plus sévèrement, ça ne laisse passer aucun doute sur la possibilité que chacun, chacune, soit jugé selon ses propos. Et on peut le lire en Matthieu 12, donc les versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. L'importance de la parole. Les paroles, bien sûr, les actes également, de l'incroyant prouvent justement qu'il n'était pas né de nouveau. Quel est l'étalon de mesure ? C'est la parole qui vont attester que l'incroyant n'est pas né de nouveau. Qu'en est-il de nous, croyants? Bien sûr, nos paroles comme nos actes seront examinés en vue de l'obtention ou de la perte d'une récompense. Nous sommes clairs sur cette doctrine. Le salut en Jésus-Christ, nous ne le perdrons jamais, si tant est que nous sommes sauvés. L'Écriture est très claire là-dessus. En revanche, il y a des récompenses. Ça, c'est une certitude. Et on le voit ici en 1 Corinthiens 3, dans les versets 14 à 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Soyons encouragés pour les récompenses ou pour la récompense qui nous attend dans les cieux. J'ai noté que nos paroles sont donc aussi importantes que nos actes. Donc, chers frères et sœurs, veillons-y. Nos paroles, tout autant que nos actes. Ça, c'est la première vérité spirituelle que Jacques nous donne. On va voir la seconde. À savoir que maîtriser parfaitement sa langue est humainement impossible. On est comme devant un mur, mais on verra comment y arriver. Verset 2. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous savez comme moi, l'homme parfait, en tout cas ici-bas, n'existe pas. Qui n'a jamais péché? Seigneur l'a dit lui-même, hein, devant la femme pécheresse, celui qui n'a pas péché, qu'il lui jette la première pierre. Et vous connaissez la suite. Chacun s'est défilé. Bien sûr, nous sommes tous pécheurs, mais en 1 Jean 1,10, on peut le lire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point dans nous. De la même manière, si nous ne croyons pas en Dieu, nous le faisons menteur. Donc vous voyez que la condamnation, elle est là. Elle est là, parce que Dieu ne ment pas. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Pourquoi renier cette réalité spirituelle? Et donc, nous sommes tous pécheurs. Jésus-Christ est le seul dans toute l'histoire de l'humanité à n'avoir jamais péché. En parole et en acte, lui seul n'a jamais péché. Que faire? Ça veut dire donc que nous sommes tous concernés. Aucun de nous ne peut prétendre toujours dire toujours ce qu'il faut, comme il le faut et quand il le faut. Combien de fois n'avons-nous pas été coupables dans le mutisme en refusant de dire la vérité? Combien de fois n'avons-nous pas été complices pour n'avoir pas secouru ou dit la vérité dans des circonstances assez particulières? Donc, vous voyez, nous sommes tous concernés. J'ai noté que presque toute conduite coupable implique le fait de parler d'une manière qui est répréhensible. Et on le voit au verset 2b. Un homme capable de tenir tout son corps en bride. Donc j'aborde la troisième vérité spirituelle ici, en ce qui concerne la langue, à savoir que maîtriser la langue aide à maîtriser tout notre comportement. Et c'est ce que Jacques nous apprend dans le verset 2, toujours. L'homme parfait, nous en sommes incapables, mais il y a l'idée ici de l'homme capable de tenir tout son corps en bride. Et on va voir comment. Les péchés de la langue sont fort divers et variés. Mensonges, calomnies, médisances, commérages, critiques, querelles, et j'en passe. Ainsi, éviter de pécher par nos paroles nous évite de nous conduire de façon répréhensible. Et, j'ajoute, utiliser notre langue pour faire du bien revient à nous conduire avec sagesse. Quatrième vérité spirituelle, ça veut dire que la langue, quoique petite, peut accomplir de belles choses. Il n'y a pas que du négatif. Un petit mort dans la bouche d'un grand cheval permet de diriger tout son corps où l'on veut. Je ne sais pas combien pèse un cheval, c'est robuste. Et vous voyez, avec un petit mort dans la bouche, toute cette masse musculaire, on peut la diriger là où on veut. C'est un peu l'image que Jacques nous donne ici. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. une belle image, n'est-ce pas? Autre image, le minuscule gouvernail d'un grand bateau permet de le diriger, même au sein d'une tempête, vers sa destination. Verset 4, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Non seulement maîtriser notre langue nous permet de maîtriser tout notre comportement, mais il nous permet de faire beaucoup de bien à autrui, tout en faisant du bien à nous-mêmes. Réciproquement, quand nous faisons du bien à autrui. Par nos paroles, nous pouvons conseiller, consoler, encourager chrétiens et non-chrétiens. Nous pouvons même gagner des âmes à Jésus-Christ par nos paroles. Cinquième vérité spirituelle, toujours par rapport à la taille de la langue. Quoique petite, la langue peut aussi accomplir d'énormes dégâts. Donc on est tout à fait à l'opposé de ce que l'on vient de voir. Petite, mais source de déconvenues énormes. Il suffit, au départ, d'une étincelle pour détruire des milliers d'hectares d'une belle forêt. C'est l'image de Jacques, ici, qui nous donne de la langue. Souvenons-nous de ces méga feux l'été. En Californie. Ça suffit de quoi? Petite étincelle. Et on a vu les conséquences dramatiques. Comme quoi, l'image est encore plus que d'actualité. Verset 4. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Avec une petite langue, on peut briser des vies entières. Un mariage, une amitié de 40 ans, et j'en passe. On mesure un peu les dégâts que la langue peut occasionner. Par conséquent, prenons donc garde à notre langue, un organe minuscule, mais hélas, capable de bien des situations déplorables. Et finalement, comment la langue est décrite par la Bible? Quel est le regard que la Bible porte sur ce petit membre? On en vient donc à notre question de savoir finalement qu'est-ce donc la langue? C'est quoi la langue, d'après la Bible? Premièrement, Jacques décrit la langue comme un feu. Verset 6a. Elle ravage tout sur son passage, laissant tristesse et désolation. Un feu. Le minuscule organe dans nos bouches, à peine visible, c'est un feu. Jacques nous dit encore que la langue, elle souille le corps. Verset 6. Elle est en mesure d'entraîner tous les membres du corps dans de mauvaises directions. La souillure par la langue, elle nous amène là où l'on ne veut pas, une direction qui n'est pas celle du Seigneur. Elle souille le corps. À nouveau, elle enflamme le cours d'une vie. C'est pas seulement limité dans le temps. La langue, elle peut enflammer toute une vie. Autrement dit, ces effets destructeurs peuvent s'exercer depuis l'enfance jusqu'à la vieille. C'est très important de savoir parler aux enfants. Les conséquences peuvent être désastreuses. La langue. Elle est enflammée par la gêne. Verset 6. Ça veut dire qu'elle est inspirée tout simplement par le malin, par le diable, le menteur, l'accusateur. Cinq, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Verset 8. Personne n'est parfait. Seul Christ n'a point péché en parole et en acte. Il est quasiment impossible de la maîtriser parfaitement. On est tous concernés. Comment faire? Nous sommes donc invités à prier. Et là, j'ai relevé un passage du psaume 141 au verset 3 qui dit ceci: Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Nous sommes invités à prier constamment pour que nos propos soient à la mesure de l'Esprit de Christ qui habite en nous. C'est par la prière. Par nous-mêmes, nous en sommes bien incapables. La prière. Sixième point, la langue, elle est pleine d'un venin mortel. Verset 8. Autrement dit, elle peut être véritablement un poison à redouter. Un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, comme ce matin. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu dans la semaine ou ailleurs. Un poison redoutable. Quel paradoxe j'ai noté. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, dit Jacques, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est totalement contradictoire. Ainsi, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Bien sûr que non. Pas plus qu'au verset 12, de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, pour conclure, j'ai noté que par la nature même de la langue, nous devons apprendre à la tenir. Tenir notre langue. Mais comment? En nous laissant conduire par l'Esprit de Christ qui habite en nous. L'intercession, la prière, comme on l'a vu. Ainsi, Demandons à Dieu qu'il nous aide à veiller sur nos paroles afin qu'elles soient à la fois à sa gloire et bienveillantes à notre prochain. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.